Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, les aveux du suspect du meurtre de Siem, 18 ans, dans le Gard. Il a évoqué une dispute liée à leur relation amoureuse. La procureure a pris la parole ce matin. On sera sur place dans un instant avec Stéphane Burgat. Travailler 4 jours par semaine. On parlait hier de l'URSSAF de Picardie. On ira aujourd'hui dans une entreprise, une menuiserie de Dijon qui ferme le vendredi pour réduire sa facture d'énergie. La semaine de 4 jours et plus globalement notre rapport au travail. On en parle dans Europe Midi aujourd'hui avec vous au 39-21 et avec l'auteur d'une étude de l'Institut Montaigne sur le travail en France. Les banques distribuent un peu plus de prêts immobiliers grâce à l'actualisation mensuelle du taux d'usure. Les explications de Margot Faudéré. Il était journaliste jusqu'au bout des ongles. Il courait les pièces de théâtre encore ces derniers temps. Philippe Tesson est mort. Il avait 94 ans. Nicolas Caro sera là pour lui rendre hommage et revenir sur sa carrière. Le porte-parole de Système U sera avec nous dans Europe Midi. Il va nous détailler son panier anti-inflation. 150 produits au total, un panier lancé dans tous les super et les hyper U. C'est la Chandeleur. Aujourd'hui, on va voir combien vont nous coûter les crêpes cette année. Et puis la tendance météo, Anissa Haddadi, avec encore beaucoup de nuages.
Oui, c'est vrai qu'hier, on a eu un petit répit avec ces éclaircies qui étaient plus nombreuses sur une grande majorité des régions. Bon, aujourd'hui, les nuages sont bien présents sur les deux tiers de la France. Les éclaircies, ça sera pour le nord-ouest et le pourtour méditerranéen, avec toujours quelques flocons sur les Vosges et le Jura cet après-midi et des températures au-dessus des moyennes de saison.
Anissa Haddadi, merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. On avait encore un espoir de la retrouver en vie, mais la jeune Siem, 18 ans, disparue dans le Gard le 25 janvier dernier, a été retrouvée morte cette nuit. Stéphane Burgat avec nous dans Europe Midi. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en région PACA. La procureure de Nîmes a donné plus d'informations il y a quelques instants sur les circonstances de la mort de Siem.
Oui, effectivement, le corps de Siem qui a été découvert cette nuit vers 1h du matin, en partie dissimulé en bordure d'un chemin de campagne isolé à proximité de ce village de la Grande Combe. Après ses aveux du principal suspect, la thèse de l'enlèvement visant à obtenir des fonds qui avaient été un temps évoqués par le parquet semble donc écartée, selon la procureure de Nîmes, Cécile Jansac. Écoutez.
Le gardé à vue, lien de famille éloigné de la victime, passé aux aveux, en soirée, il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité. Il faisait ses déclarations pour elle, pour sa famille et pour sa conscience.
Voilà la procureure Cécile Jansac qui reste néanmoins très prudente sur les déclarations du principal suspect dans la mesure où elle ne dispose que de cette unique version des faits dans l'attente des recoupements de l'avancée de l'enquête judiciaire et de ses résultats d'autopsie qui sont attendus bien la semaine prochaine pour établir notamment les causes et heures du décès car de nombreuses zones d'ombre demeurent dans ce drame.
Stéphane Burgat, en direct de Nîmes pour Europe 1. Merci Stéphane. La 7e demande de remise en liberté de Cédric Jubilard va être examinée aujourd'hui par la Cour d'appel de Toulouse. Jusqu'ici, la justice n'a jamais donné son accord à une sortie de prison du principal suspect dans la disparition de Delphine Jubilard. Les investigations sont terminées et les avocats du détenu incarcéré depuis juin 2021 assurent que le dossier est vide. Une forte mobilisation mardi dernier. Deux nouvelles journées de manifestation les 7 et 11 février prochains. Et voilà que le gouvernement lui-même commencerait à douter. On parle bien sûr de la réforme des retraites. Elisabeth Borne sera à la télévision ce soir sur France 2 pour défendre le projet de loi débattu en séance à l'Assemblée à partir de lundi. Jacques Serey avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
La Première ministre est attendue au tournant car en plus de donner des gages à la droite, elle va devoir remotiver ses propres troupes.
Oui, car face à la pression de la rue, les langues se délient en Macronie. Ici, un proche du président critique le timing de la réforme. On aurait dû la présenter avant Noël. Borne voulait attendre. C'était une erreur, explique ce soutien de la première heure. Là, c'est un ministre qui s'agace du peu d'entrain de ses collègues du gouvernement à monter au front. On est seul, lâche-t-il hors micro, regrettant par là même un certain manque de cohérence dans le message messages délivrés ces derniers mois, notamment par l'entourage du président, quand il s'agissait de défendre la nécessité d'un report de l'âge légal de départ pour financer la santé, l'école ou encore la transition écologique. Désormais, il n'en est plus question. La réforme doit financer exclusivement nos retraites, n'a de cesse de répéter la Première ministre. Des changements d'arguments qui ont fini par plomber le texte. Un conseiller fait ce constat d'échec. La bataille de l'opinion est perdue. On ne vise plus cet objectif. Elisabeth Borne a donc bien une autre mission ce soir, redonner confiance à ses propres soutiens.
Jacques Seret, merci beaucoup Jacques. Emmanuel Macron, de son côté, s'apprête à recevoir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour une visite d'État. Les deux hommes vont dîner ensemble. Principaux sujets de discussion, les tensions avec l'Iran, les violences entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi le soutien de l'État hébreu à l'Ukraine, souvent jugé trop timide. On vous parlait hier dans Europe Midi de cette expérimentation menée à l'URSSAF d'Amiens. Une semaine de 4 jours pour les agents volontaires pendant un an, mais avec le même nombre d'heures hebdomadaires effectuées, hein, 36 heures au total. Eh bien, en plus d'un certain confort supplémentaire, cette solution peut aussi être utile pour faire des économies. Vous allez comprendre. Face à l'envolée des prix de l'énergie, une menuiserie dijonnaise a décidé de fermer tous les vendredis. Un bonheur pour les salariés et pour la trésorerie. Reportage Europe 1 de Jean-Luc Bougeon.
Ici, à l'atelier Panel, la semaine de 4 jours est en vigueur depuis 3 mois. C'est le patron David Butet qui a pris cette décision en voyant son nouveau contrat d'énergie.
Mon contrat gaz et électricité fait x4 et je me suis dit de quelle manière on peut faire des économies rapides. J'ai réuni les salariés, on a réfléchi ensemble et ils m'ont dit bah écoute, si on enlève une journée, ça va faire des économies de consommation énergétique.
L'atelier est donc fermé le vendredi, les machines, la lumière et le chauffage fonctionnent un jour de moins par semaine.
On a fait presque 25% d'économie. 25% c'est énorme, je pensais pas qu'on allait atteindre autant.
Gagnant aussi les 20 salariés qui viennent un jour de moins au travail. Programmeur y voit plusieurs avantages.
Ça nous permet quand même d'avoir un week-end de 3 jours, donc de nous reposer, c'est ouais. Que du positif. Et ça me permet d'économiser au niveau du gasoil aussi. Je faisais un plein et demi par mois environ, maintenant je suis sur un plein par mois. Ça me fait gagner 40 euros par mois environ.
Tout le monde s'y retrouve donc, y compris la société, qui n'a rien perdu ni en productivité ni en chiffre d'affaires. Dijon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Voilà, la semaine de 4 jours, on va en parler dans Europe Midi. À midi et demi, on sera avec le représentant de l'Institut Montaigne qui a mené une étude sur le sujet et puis sur notre rapport au travail. On en parle beaucoup en ce moment. C'est un chiffre qui nous a marqué l'été dernier. Presque une demande de prêt immobilier sur 2 était refusée par les banques. La raison, un taux d'usure trop bas. Le taux d'usure, c'est le taux maximal au-delà duquel la banque n'a pas le droit de vous prêter de l'argent. Alors depuis, ce taux d'usure a été revu à la hausse. Il est même réévalué désormais tous les mois. Avant, c'était tous les 3 mois. Maintenant, c'est tous les mois. C'est censé débloquer la situation. Margot Faudéré avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour.
Est-ce que cette mesure permet réellement de satisfaire davantage de clients à l'emprunt ?
Alors, ce n'est que le début, Romain, mais oui, on peut dire ça. En particulier pour les plus de 45 ans qui payent des assurances emprunteurs plus chères en raison de leur âge et qui atteignent donc plus souvent le taux maximum. Avec le nouveau calcul du taux d'usure, Stéphanie, 54 ans, peut enfin espérer obtenir son crédit.
J'ai trouvé le bien que je souhaite acheter, un appartement qui est situé à Grenoble. La semaine dernière, quand j'ai présenté mon dossier à ma banquière, elle était très frileuse parce que j'étais proche du niveau maximum du taux d'usure. Avec le nouveau taux d'usure, mon dossier passe et peut être présenté en commission.
Et le nombre de dossiers bloqués devrait continuer à baisser, explique Axel Ronce, le directeur de l'agence Meilleur Taux de Nantes.
Cette mensualisation du taux d'usure sur février, il va se produire la même chose sur le mois de mars, va permettre de pouvoir relancer tous les projets qui avaient été mis sous cloche. On commence à le percevoir auprès finalement de toutes les banques.
Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est plus facile d'acheter. Pour le moment, les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Ils sont beaucoup plus élevés qu'il y a quelques mois. 2,60% en moyenne pour un prêt sur 20 ans, d'après cette même agence Meilleur Taux. Et les prix de l'immobilier ne diminuent pas non plus.
Merci beaucoup Margot Faudéré. Voilà, l'immobilier, ça passionne tout le monde. La pierre, on dit, voilà, une passion française. Merci beaucoup Margot. On a appris dans la matinée
la mort du journaliste et écrivain Philippe Tesson. Mmh. Il avait 94 ans, il a travaillé pour de nombreux journaux, il était réputé notamment pour ses prises de position hautes en couleur, et puis il avait surtout fondé le quotidien de Paris en 1974. Nicolas Carreau avec nous, chroniqueur littéraire d'Europe 1. Bonjour Nicolas.
Bonjour Romain.
Philippe Tesson, c'est plus de 70 ans de carrière. Hein.
Mais oui, on le croyait invincible, immortel, oui. Sans doute à cause de l'étincelle dans ses yeux, vous savez, une étincelle de malice et d'intelligence qui allait avec son sourire espiègle. C'était un jeune homme, Philippe Tesson, même à 94 ans, hyperactif, il était multicarte, il est venu souvent à Europe 1, d'ailleurs il abordait, je me rappelle, ses passages médiatiques comme un acteur prépare son rôle, il aimait le spectacle, le théâtre était sa vraie passion, il a d'ailleurs acheté le théâtre de poche de Montparnasse en 2010, il courait toujours tranquillement quelque part, on avait le tournis quand il dressait la liste de ses activités, et c'est pareil si l'on retrace sa vie, il est né dans l'Aisne, à 30 ans il est rédacteur en chef du journal de la Résistance Combat, il est condamné 17 fois pour offense au chef de l'État, le général de Gaulle. En 74, il fonde le quotidien de Paris. Parallèlement, il lance le quotidien du médecin avec sa femme Marie-Claude. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il avait toujours un fer au feu.
Mais je m'en fous, je ne me pose jamais la question, je ne me pose plus, pas trop souvent la question de savoir pourquoi. Se poser la question de savoir pourquoi on fait les choses, c'est s'empêcher de les faire parce que ça fait perdre du temps. C'est un peu ça ma philosophie.
Alors bizarrement, il n'a jamais écrit de livre. Si, un tout petit sur De Gaulle dans les années 60, il a laissé ça à son fils, les livres, Sylvain. D'ailleurs, il confiait que quand on les voyait tous les deux, avant on disait « c'est le fils de Philippe » et maintenant on dit « c'est le père de Sylvain ». Il avait le sens de la formule et le sens de la vie et toujours avec son sourire.
Merci beaucoup Nicolas Carreau. C'est vrai qu'il ne s'était jamais arrêté en réalité.
Jamais.
On parle beaucoup de la retraite, il a 94 ans, il allait voir des pièces jusqu'à ces derniers mois, quoi, ces dernières années. Oui.
C'est un très très gentil, un homme très très gentil, très bon.
Ce qui ne gâche rien.
Pour l'avoir connu un petit peu.
Merci beaucoup Nicolas Carreau. Il est midi 12.
Europe Midi. Romain Desarbres.
La manucure, un soin de beauté que vous imaginez peut-être sans risque. Pourtant, la revue médicale Nature alerte sur les dangers que cette pratique peut faire peser sur la santé. Les lampes à ultraviolets qui sont utilisées, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les ongleries, pour donc maintenir la couleur hein, sur les ongles, eh bien, ces lampes à ultraviolets pourraient multiplier les risques de développer un cancer de la peau. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Expliquez-nous.
Eh bien, les chercheurs ont exposé des cellules humaines et animales aux lampes UV. En une seule exposition de 20 minutes, 30% des cellules ont été détruites. Les scientifiques américains ont donc déduit qu'à long terme, cela provoquerait une mutation des gènes. Or, ce sont les modifications de l'ADN qui peuvent déclencher un cancer, explique le professeur Jean-Yves Blais, président de la Fondation Unicancer.
Pour les rayons UV, il y a des mutations particulières qui sont retrouvées et que l'on retrouve dans cette étude. Les altérations de l'ADN, elles vont être réparées par nos systèmes cellulaires naturels qui réparent l'ADN, mais parfois ils sont débordés, parfois ils réparent mal. Et donc le risque, il existe dès une première exposition, a priori.
En fait, mettre sa main sous une lampe UV plusieurs fois par mois pour certaines femmes équivaut à une exposition répétée au soleil et ses rayons, que l'on sait dangereux. Certaines esthéticiennes proposent donc de mettre de la crème solaire pendant la manucure, une solution insuffisante pour le médecin qui préconise de limiter au maximum le contact avec les UV.
Merci beaucoup Yasmina. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Je suis sûr que vous n'avez pas attendu Europe Midi pour le savoir. Mais je vous le rappelle quand même, aujourd'hui c'est la Chandeleur. On fait des crêpes. Avis aux retardataires, ne traînez pas pour faire vos courses. Les rayons risquent d'être vides, c'est vrai. Hein. La consommation de confiture et de cidre, par exemple, augmente de 50% pendant la période de la Chandeleur. Mais une fois en magasin, l'inflation va peut-être vous réserver une mauvaise surprise. Bonjour Noah Moussa.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous avez fait vos calculs et faire des crêpes va coûter plus cher cette année. Hein.
Et oui, le sucre, la farine, le beurre, l'huile, les œufs et le lait, tous les ingrédients qu'on utilise pour faire notre pâte à crêpes maison ont augmenté, selon notre partenaire, le panéliste IRI. Si vous faites 25 crêpes, par exemple, vous aurez besoin de 500 grammes de farine. En marque distributeur, ça vous coûtait 30 centimes lors de votre dernière chandeleur. Et bien cette année, la même quantité de farine vous reviendra à 44 centimes. Et en marque nationale, ça passe même de 80 à 96 centimes. Idem pour les 5 œufs de marque nationale nécessaires à votre recette. Ils vous coûtaient 1,60 €. L'année dernière, c'est 1,90 € aujourd'hui, 22% d'augmentation. Votre plaquette de 100 grammes de beurre n'échappe pas non plus à l'inflation. En marque nationale, elle passe la barre symbolique des 1 € contre 83 centimes l'an dernier. Autre ingrédient essentiel, le sucre. En marque distributeur, les 100 grammes coûtent 18% plus cher, Romain. En bref, notre fête des crêpes qui nous coûtait 3,20 euros l'année dernière nous coûtera 3,85 euros cette année, 20% plus cher, sans compter les garnitures et les boissons. Là aussi, les prix s'envolent. Le pot de confiture, par exemple, augmente de 13%.
La crêpe, produit de luxe. Non, on n'en est pas là, mais enfin, ce que vous nous dites...
Mais oui, presque.
Mais presque, mais presque. Merci beaucoup, Noah Moussa. Et on ne peut pas parler de crêpes en France, c'est impossible, sans penser à la crêpe au sucre des bronzés fonds du ski.
Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, 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 je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là, on croit rêver.
C'est vrai, on s'est dit qu'il se croit celui à tête de con. Voilà, qu'on ne te revoit plus ici, hein.
Qu'est-ce qui se passe?
Oh, bah c'est encore une crêpe au sucre.
Encore une histoire de crêpe au sucre. Mais oui, encore une histoire de crêpe. On connaît tous, tout le monde connaît la recette de la crêpe au sucre et de la crêpe avec la crêpe Gigi, hein, le pétale de rose tiède. Voilà. Claire Lemaître, vous connaissez la...
C'est culte.
C'est culte, c'est culte, effectivement. Voilà, petit cadeau dans Europe Midi. La bourse, Claire Lemaître avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour Romain.
Qu'est-ce que ça donne à Paris?
Eh bien, ça monte après la fête, plus 0,5% pour le CAC 40, 7117 points. La réserve fédérale américaine qui calme le jeu, elle a remonté les taux d'un quart de point hier contre un demi-point lors des précédents rendez-vous. Le discours reste ferme. On continue les hausses de taux pour faire baisser l'inflation. Alors on attend maintenant un autre gros morceau, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui se prononcera, elle, en début d'après-midi. La valeur du jour à Paris, c'est Publicis, c'est le numéro 3 mondial de la publicité. Plus 6% pour l'action après ses résultats financiers. Et puis ça se passe bien en Europe, c'est du vert. Francfort bondit de 1,5%, plus 0,6% pour Londres, plus 1,2% pour Amsterdam et donc plus 0,5% pour le CAC 40 à Paris.
Claire Lemaître de boursier.com. Merci Claire. La météo à présent avec vous Anissa Haddadi. Cette semaine, les jours se suivent et se ressemblent.
Et c'est vrai que là, depuis le début de la semaine, on a quasiment la même météo tous les jours. Un temps plutôt calme, sec, quelques averses sur le Grand Est cet après-midi entre la Lorraine, la Bourgogne et la Franche-Comté. Toujours de la neige sur les Vosges et le Jura, des 700 mètres d'altitude. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a un temps plutôt calme. Des brouillards qui ont du mal à se dissiper dans le sud-ouest cet après-midi. Une couverture nuageuse très importante sur l'ensemble des régions, sauf sur les côtes de la Manche et au bord de la Méditerranée, hein, dans les Alpes, jusqu'aux Pyrénées et encore. Soleil radieux avec toujours du mistral et de la tramontane. Les températures sont douces pour la saison. On a 6 degrés au Puy-en-Velay, 7 à Aurillac, 9 à Reims et Strasbourg, 11 degrés cet après-midi à Paris, Cherbourg, 14 à Marseille et 15 degrés pour Montpellier et Nice.
Merci Anissa, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du panier anti-inflation mis en place par Système U, dans les super et les hyper U. Lidl a également mis en place un panier anti-inflation. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont vraiment de bonnes affaires? On sera avec le porte-parole de Système U et avec vous, bien sûr, au 39-21. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Des enseignes de la grande distribution lancent le panier anti-inflation avant celui du gouvernement. C'est le cas de Lidl, c'est le cas de Système U. Bonjour Thierry Desouches.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Système U. Système U avec les hyper et les super U. Votre panier anti-inflation, ça y est, il est déjà mis en place. On le trouve dans vos magasins.
Tout à fait, on l'a mis en place depuis le premier, donc hier, une offre de 150 produits à notre marque, la marque U, qui couvre toutes les familles de produits de consommation courante.
Ouais. Les produits sont regroupés dans un seul et même lieu ou ils sont disséminés dans vos super et vos hyper?
Alors, ils sont disséminés, mais balisés, repérés dans les rayons au moyen de dispositifs qu'on appelle un barroute, en fait, qui permet aux consommateurs d'identifier rapidement le produit concerné par cette offre.
C'est quoi? C'est la petite étiquette qu'il y a dans les rayons, c'est ça?
C'est la petite affichette perpendiculaire où figure l'offre.
Il y a marqué quoi? Panier anti-inflation?
Il y a marqué 150 produits à prix coûtant.
150 produits, ouais.
Voilà.
Pourquoi être allé plus vite que le gouvernement?
Alors, en fait, si vous voulez, la préoccupation du pouvoir d'achat, on l'a identifié chez nos clients, consommateurs en général, depuis un bon moment. Donc ça fait maintenant aussi un bon moment qu'on travaille, qu'on réfléchit à des dispositifs pour accompagner nos consommateurs dans cette difficulté réelle qu'ils nous expriment. Ouais. Et donc voilà, notre liste, elle était prête, disponible. Encore une fois, on ne s'inscrit pas, nous, en contre par rapport à ce que le gouvernement est en train de réfléchir, d'élaborer. Mais voilà, notre liste était prête pour le 1er février.
Oui,
nous l'avons sorti le 1er février.
150 produits de tous les jours. On peut vivre en achetant uniquement ces produits. Il y a de l'alimentation, mais il y a aussi de l'hygiène. Il y a
tout à fait.
Ouais,
tout
à fait. D'accord.
Il y a des produits d'hygiène, des produits d'entretien. Il y a des aliments pour les bébés. Il y a des couches. Enfin voilà, on a essayé d'avoir une offre exhaustive. Alors 150 produits, si vous voulez, tout dépend de la façon dont est constituée votre famille également. Mais avec ça, quand même, on couvre un large spectre.
Ouais,
Et c'est vrai qu'on va même au-delà de ce que le gouvernement annonce, puisqu'ils évoquent 50 produits. Bon, nous sommes allés un petit peu plus loin dans notre démarche.
Vous êtes à prix coûtant, mais avec une marge minimum, hein.
Alors, en fait, c'est la loi qui définit précisément ce qu'il y a derrière le terme prix coûtant.
Oui.
Et en effet, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu technique, le seuil de revente à perte plus 10. Les 10, c'est ce que la loi nous oblige, c'est la loi Egalim 2. Alors là, c'est aussi un peu technique, mais c'est encore une fois une définition légale du prix coûtant. Et sur ces produits, si vous voulez, ce sont les magasins qui rognent sur leur marge. C'est un effort réel.
Oui, parce que ça, c'est une vraie question. Qui rogne sur sa marge? Est-ce que ce n'est pas l'agriculteur à qui vous allez, passez-moi l'expression, mais Cyril Kiki?
Non. Là, la marge, l'effort de marge, il est supporté uniquement par le magasin. Nous n'avons rien demandé à nos fournisseurs. C'est quelque chose qui est supporté uniquement par les magasins de la coopérative.
Parce que ça, c'est important de le dire, on l'entend. Est-ce qu'ils ne vont pas être durs avec les agriculteurs, avec les fournisseurs, avec les producteurs en général? On est avec Christian.
Excusez-moi. Allez,
on est avec Christiane qui nous appelle de Seine-et-Marne, retraitée, 84 ans. Bonjour Christiane.
Bonjour tout le monde.
Bon, vous faites attention quand vous faites vos courses, j'imagine?
Très attention, parce que je suis toute seule, je suis veuve toute seule.
Oui.
Et effectivement, en ce moment, c'est surtout les familles qui sont un peu plus nombreuses qui ont certains avantages. Alors, je veux dire que là, chez U, le magasin U, je le connais, mais il est trop loin, donc je ne peux pas y aller. Je n'ai pas de voiture. Mais je veux dire déjà, bon, c'est un beau point, 150 produits, mais déjà, pourquoi les disséminer dans tout le magasin? Il faudrait faire comme avant, parce que ça s'est déjà passé, cette histoire du panier de la ménagère, de le faire dans des caddies, dans deux caddies, pour savoir qu'est-ce qui est déjà
rayon spécial.
Comment voulez-vous savoir 150 produits, aller dans tout le magasin chercher, vous avez passé la matinée. Bon, ça c'est déjà ça.
Oui.
Et je suppose que le magasin U, c'est des magasins, c'est vrai, bien tenu. Mais je veux dire que déjà les étiquettes ont tellement flambé. Moi, je pense que dans tous ces produits qui ont augmenté, les grandes surfaces vont baisser en disant « tiens, c'est moins cher et tout ça ». Or, il y a des produits qui ont vraiment augmenté d'une façon incroyable. Ce que je veux dire aussi, c'est que Intermarché aussi a des produits avec des marques à eux, c'est top budget. Mais top budget, on ne le voit pas beaucoup. Alors forcément, les prix qui étaient attractifs, on ne voit plus ces prix.
Bon, il y a beaucoup de questions dans ce que vous nous dites, Christiane. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez rester avec nous, on va faire une petite pause publicitaire. On va ensuite écouter le flash d'Émilie Dez. Et on sera à nouveau avec Thierry Dessouches, qui est porte-parole de Système U, avec vous, parce que vous posez plusieurs questions, et avec ceux qui appellent le 3921. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est midi 31, merci d'être avec nous dans Europe Midi. On va continuer à parler de l'inflation, du panier anti-inflation dans certains supermarchés. Ça y est, on commence à aller voir ces paniers anti-inflation. On est avec vous et on est avec le porte-parole de Système U. Mais tout d'abord, le point info avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Et bonjour Romain, bonjour à tous. Une semaine après la disparition de la jeune CM, son corps a été retrouvé la nuit dernière dans un bois du Gard. Le principal suspect dit l'avoir tué dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse. C'est lui qui a conduit les enquêteurs vers le corps. L'homme de 39 ans avait été condamné à plusieurs reprises, notamment pour un vol avec arme en 2015, selon la procureure de Nîmes. Elisabeth Borne peut-elle convaincre ? La première ministre va défendre sa réforme des retraites ce soir sur France 2. Une réforme qu'elle dit juste, même si elle demande un effort. Le texte sera débattu à l'Assemblée à compter de lundi. Bruno Le Maire est convaincu qu'il y aura une majorité au Parlement pour voter le texte. Ursula von der Leyen est à Kiev à la veille d'un sommet européen avec l'Ukraine. La présidente de la Commission devrait notamment s'entretenir avec Volodymyr Zelensky. Le chef de la diplomatie russe accuse les Occidentaux de soutenir l'Ukraine pour mettre fin à la question russe. Le Premier ministre israélien est attendu aujourd'hui à Paris. Benjamin Netanyahou doit dîner à l'Élysée ce soir, l'occasion d'évoquer les tensions croissantes autour de l'Iran et les violences israélo-palestiniennes. Et puis le journaliste Philippe Tesson est mort à l'âge de 94 ans. Il s'est éteint hier à son domicile de Chatou dans les Yvelines. Philippe Tesson avait fondé son propre journal, le Quotidien de Paris, qu'il a dirigé pendant 20 ans. Passionné de théâtre, il était à la tête du Poche Montparnasse depuis 2011.
Émilie Dez, merci Émilie. On vous retrouve dans une demi-heure à 13h. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Le panier anti-inflation, il a déjà été mis en place par Lidl et également dans les super et les hyper U. Et on est avec Thierry Dessouches, qui est porte-parole de Système U. Thierry Dessouches, on était à l'instant avec Christiane, 84 ans, retraitée, qui nous appelle de Seine-et-Marne, qui nous dit pourquoi ce n'est pas regroupé dans un même lieu, dans un seul et même rayon et pas disséminé dans les magasins. C'est vrai que c'est une bonne question.
Alors, tout d'abord, je voulais rassurer Christiane, nos magasins sont des magasins de taille, je dirais, relativement modeste. On ne parle pas de grands hypermarchés. Et c'est vrai que, avec le balisage qui est mis en œuvre dans les magasins, on identifiera très, très facilement les produits. Mais au-delà, pourquoi est-ce qu'on ne regroupe pas tout au même endroit ? Et bien, en fait, c'est une question d'organisation. Un magasin, c'est quelque chose qui est étudié, organisé. Chaque produit a une place bien définie, et si on devait tout regrouper au même endroit, ça voudrait dire qu'il faudrait revoir tout ce qu'on appelle le merchandising. Alors c'est un mot un peu barbare, mais l'organisation des produits, et ça serait extrêmement compliqué. Là, il y avait besoin de réagir rapidement, donc on a sorti cette liste, on a fait en sorte que tout soit bien lisible, et j'étais moi-même hier dans les magasins, je peux vous dire que c'est le cas, il n'y aura aucun problème pour identifier les produits.
On le repère facilement.
Voilà, on les repère facilement.
Ouais.
Exactement.
Bon, dernière question, Thierry Dessouches. Consommation, les voyants passent au rouge, c'est la une et c'est le titre des Échos ce matin, que vous avez certainement lu parce qu'il est également question de Système U et de la liste des 150 produits. Mais face à la hausse des prix, les Français effectuent des arbitrages dans leurs achats de produits du quotidien. Les voyants passent au rouge. La consommation baisse en France ? Dans les hyper et les super en alimentation.
En fait, il y a déjà des consommateurs qui s'adaptent et qui arbitrent, c'est-à-dire qu'ils continuent à consommer des produits alimentaires, bien sûr, parce qu'il faut se nourrir, mais ils achètent différemment, c'est-à-dire qu'ils reportent leurs achats des marques nationales vers les produits à marque distributeur ou les produits premier prix. Et puis, on a des rayons, les rayons traditionnels, par exemple la boucherie, la poissonnerie, les fruits et légumes, où là, il y a une baisse extrêmement sensible de la consommation, c'est-à-dire qu'on achète moins de viande, on achète moins de poisson parce que ce sont des produits qui sont chers ou qu'on estime trop chers, enfin les consommateurs, et donc ils se reportent vers des produits peut-être un peu plus économiques. Et ce qu'on constate également, c'est que là j'évoque un report, mais il y a également pour certains des arbitrages qui font qu'on n'achète pas le produit. C'est-à-dire que nous, on a des indicateurs qui montrent que les ventes en volume, c'est-à-dire le nombre de produits que l'on passe en caisse, a tendance à diminuer parce que là aussi, c'est un signe de l'arbitrage.
Ouais.
Il y a des personnes qui renoncent à acheter certains produits parce qu'ils sont face à d'autres dépenses contrainte et l'arbitrage se fait au défaveur du produit alimentaire. Mmh. Il faut savoir aujourd'hui que le budget alimentaire est un produit sur lequel on peut arbitrer. Quand on va dans un magasin, on a le choix entre différentes marques, différents produits, ce qui n'est pas le cas par exemple avec l'énergie. L'augmentation de la facture qui arrive là, ben, je dirais, elle s'impose. Idem pour le prix du carburant, le gazole qui est en train d'augmenter. On ne peut ou très difficilement arbitrer. L'alimentaire, traditionnellement, est un poste d'arbitrage pour le budget des Français.
Merci beaucoup Thierry Desouches. Merci d'avoir décrypté ce moment, de nous avoir parlé de votre panier anti-inflation et puis d'avoir décrypté la consommation en France. Merci beaucoup, porte-parole de Système U, 12h37.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Le rapport des Français au travail ne s'est pas dégradé. Vous savez, on entend beaucoup la valeur travail qui aurait disparu ou en tout cas baissé en France. Bernard Martineau, économiste à l'Institut Montaigne. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé une étude et vous nous dites que le rapport des Français au travail ne s'est pas dégradé. Je voulais qu'on parle avec vous, on parle beaucoup de travail en ce moment, de rapport au travail, de valeur travail, avec les grèves contre la réforme des retraites. C'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui, à 45 ans, disent « Oh, je ne me verrai pas travailler jusqu'à 64 ans, 60, 65 ans » et qui n'ont pas des métiers plus difficiles que ça. Et puis, on parle également depuis quelques jours, quelques semaines, du passage dans certaines entreprises aux 36 heures hebdomadaires sur 4 jours au lieu de 5. Et vous avez réalisé avec l'Institut Montaigne, qui est un think tank qu'on peut qualifier de libéral, Bernard Martineau.
C'est plutôt d'ailleurs favorable. Libéral, c'est liberté, c'est une valeur relativement positive en général.
Bien sûr. Et du coup, vous avez réalisé une enquête sur le travail qui s'appelle « Les Français au travail, dépasser les idées reçues ». Est-ce que les Français, déjà, ma question est assez générale, la première, c'est est-ce que les Français aiment travailler ?
Eh bien oui. Oui, ils sont majoritairement satisfaits au travail, ils sont majoritairement satisfaits du contenu de leur travail, du sens donné à leur travail. Et par ailleurs, il y a tout un tas d'irritants et de motifs d'insatisfaction, on pourrait y revenir. Mais globalement, les gens sont plutôt heureux au travail. Pas forcément très heureux, mais en tout cas, plutôt satisfaits, en effet. Ce qui confirme, alors sur ce point-là, ce n'est pas extraordinairement innovant, puisque ça confirme des études de long terme qui étaient faites déjà avant le Covid. Et le niveau de satisfaction est le même.
Est le même. En France, on entend souvent « il y a un avant et un après 35 heures ». Est-ce que c'est vrai ?
Non. Alors, dans les mentalités, dans la perception collective, c'est très possible. Mais au niveau de la perception individuelle, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Si on en revient à la question du temps de travail, le temps de travail est stable dans notre pays depuis 2004, après avoir baissé de manière tendancielle depuis les années 70. Il est, pas pour les cadres au passage, les cadres ils travaillent presque autant que dans les années 70, sur une base annuelle, on ne le dit pas assez, mais en tout cas, en moyenne, effectivement, il n'y a plus de baisse du temps de travail, on est stable depuis le milieu des années 2000.
Et un mot des cadres, les cadres travaillent toujours autant ?
Oui, tout à fait.
Ah oui.
Voilà, quelques dizaines d'heures près sur l'année.
L'année.
Ce sont des chiffres de l'INSEE, là. C'est pas ces enquêtes de long terme. C'est pas nous qui les avons faites à l'Institut Montaigne, bien sûr. Là, on prend des chiffres de l'INSEE.
Oui. Le travailler plus pour gagner plus, le célèbre slogan de Nicolas Sarkozy en 2007, il séduit encore un tiers des Français.
Oui. Alors, pour être tout à fait complet, il y a aussi 15% des salariés qui seraient prêts à travailler moins, quitte à gagner moins.
Oui.
Et donc, ceux qui travaillent plus l'emportent quand même. Mais il y a aussi, il faut être honnête, il y a l'autre volet. Alors, ce sont des gens qui sont globalement satisfaits de leur travail aujourd'hui, qui le profit de ces personnes qui veulent travailler pour gagner plus. Ils sont plutôt satisfaits. Ils ont une conciliation vie familiale, vie professionnelle satisfaisante. Et puis, ils ont des rémunérations relativement modestes. On est sur des basses rémunérations où rémunération moyenne.
Oui, rémunération moyenne. Comment est-ce que vous analysez ce non des Français, les deux tiers des Français, dans les sondages en tout cas, au départ à la retraite à 64 ans, quand on des jeunes de 20 ans ou des gens de 30 ans qui disent que l'idée même de penser à partir à la retraite à 64 ans les irrite.
Alors déjà, il faut bien distinguer les Français et les actifs, parce que les deux tiers des Français opposés, c'est y compris les retraités. Si on ne regarde que les actifs en emploi, ce qui est le cas de notre étude, l'opposition est beaucoup plus forte encore. Vous voyez, les retraités sont plutôt en faveur de la réforme, puisqu'elles visent quand même à consolider le système de retraite et à ne pas baisser les pensions quand même. C'est ça l'objectif final. Donc ça se comprend assez bien. Ouais. Donc si vous regardez maintenant le rejet, on va dire, il est tellement général qu'on ne peut pas dire qu'il touche plus particulièrement telle ou telle personne. C'est-à-dire qu'il transcende toutes les catégories socioprofessionnelles, il transcende les niveaux de rémunération, de diplôme, d'âge, de sexe, etc. Cela dit, on peut quand même statistiquement montrer que ceux qui sont le plus en défaveur, c'est-à-dire ceux qui pensent que l'âge de 62 ans est déjà trop élevé, ce sont majoritairement des gens qui se sentent quand même pas bien dans leur travail, qui ont un problème avec leur management, qui n'ont pas de perspective professionnelle, qui ont une ancienneté très forte dans leur poste actuel, et puis ce sont parfois des gens qui ont des problèmes de pénibilité. Mais la pénibilité donc physique, c'est un facteur parmi d'autres. S'il n'y avait que les gens qui sont pénibles et qui ont le dos cassé, qui étaient contre le passage à 64 ans, évidemment, ce ne serait pas 80% des gens, vous pensez bien. Voilà, donc c'est une pluralité de facteurs, mais la vérité, c'est que vraisemblablement, et là, ça sort du domaine de l'étude, les mobiles, les motifs sont quand même assez politiques, ils sont culturels, c'est pas exclusivement le mal-être au travail qui explique cette situation.
Joël a 58 ans et il nous a appelé au 39-21. Bonjour Joël.
Bonjour.
Vous êtes pré-retraité, ancien chauffeur routier. Vous nous appelez du Nord-Pas-de-Calais. Oui. Vous nous appelez d'où exactement ?
J'appelle de Violaine.
D'accord. Près de quel grand ?
Alors, on va dire Labassée ou entre Lille et Lens, quoi, si vous voulez.
D'accord. Bon, voilà. On parlait de la semaine des 4 jours. Hein. 36 heures effectuées en seulement 4 jours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous fait rire.
Ben oui, ça me fait rire parce que bon, je suis pré-retraité depuis... un an et demi. Si les chauffeurs routiers s'arrêtaient de travailler au bout de 36 heures, monsieur, à partir du mercredi, il n'y aurait plus un camion sur la route.
Et plus rien dans les supermarchés, on en parlait à l'instant.
Voilà.
Et plus
de... Ça me fait bien rire. Ouais. Bon, ça me fait un peu rire. Bon, après, monsieur Martineau, que je viens d'écouter, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est vrai que les gens qui ont travaillé longtemps dans la même société, en fait, il n'y a pas de reconnaissance. Ça, je suis d'accord. C'est vrai ce qu'il dit. Et il n'y a pas d'évolution en fin de carrière.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on vous laisse comme vous êtes. Quoi. Voilà.
Oui.
Et vous voulez partir, ben partez.
Vous travailliez combien d'heures par semaine déjà, quand vous étiez en fonction ?
Je vais dire, écoutez, en fait, si vous voulez, dans le transport, c'est toujours très aléatoire.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut faire des semaines, on ne va rien faire parce que, par exemple, il manque un produit, donc on dit, écoute, reste chez toi parce que ce n'est pas fait. Oui. Ou alors, il peut y avoir une explosion de produits. Par exemple, quand il y a eu le Covid, on a fait extrêmement beaucoup d'heures on livrait du gel, on livrait de l'alcool pour faire du gel alcoolique.
Et là, vous alliez jusqu'à combien d'heures ?
Si vous voulez, c'est comme quand il y a une grève. Après, l'État vous dit, vous pouvez travailler même samedi, dimanche. Roulez.
Au maximum sur une journée, c'est combien d'heures ?
Alors, le maximum d'heures autorisées en France pour un chauffeur routier, l'amplitude de travail, c'est 15 heures.
15 heures.
Oui.
Au maximum sur une journée, vous pouvez partir à 5 heures le matin et rouler jusqu'à 20 heures le soir.
Non, je ne dis pas rouler, je dis travailler.
Ah oui, travailler, d'accord.
Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose.
Oui.
C'est, en fait, la législation française, c'est 2 fois 10 heures et 3 fois 9 heures dans la semaine. Mais si vous voulez, quand vous êtes un client et que vous avez besoin de vider un camion...
Oui.
Vous ne pouvez pas dire, j'ai fini, je m'en vais, je reviens le lendemain. Non. Vous êtes bien obligé d'attendre que ça soit fini.
Oui.
Donc, évidemment, si vous avez fait vos 12 heures de travail, que 12 heures, c'est législation, vous n'allez pas rester là, dans l'usine. Donc, vous sortez, vous cherchez quelque chose à manger, voilà. C'est ça. Et moi, ce que je disais, en fait, c'est que. Monsieur Martineau, c'est qu'en fait, les gens, c'est vrai, les gens, ils ont envie de travailler. Mais les gens, ils ont envie d'être rémunérés aussi par rapport à ce qu'ils font.
Au bon niveau.
C'est un problème parce que parce qu'en fait les médias, si je m'excuse de vous couper, en fait les médias, que ce soit radio ou télévision, ont fait toute une pantomime de plus d'un an qui manque des chauffeurs partout.
C'est vrai.
Alors moi, monsieur, je ne vais pas vous cacher. Je vais vous dire ce que je gagnais. Alors, ce que je gagnais, monsieur, c'est sur n'importe quel site internet. Vous ouvrez un site, vous regardez rémunération d'un chauffeur routier.
Oui.
Je vous cache rien. Vous regardez, monsieur, moi, j'avais 31 ans dans la même maison.
Oui.
en faisant que des matières dangereuses en citerne.
Oui.
En faisant de l'international.
Oui.
Donc, coefficient 150 le plus fort. Je suis parti avec, il y a un an et demi, tenez-vous bien,
oui.
11,25 € de l'heure.
Et par mois?
Oui, mais par mois, c'est fou. Si vous faites 240 heures, il faut gagner de l'argent. Mais est-ce que 11,25 €, est-ce que c'est la bonne rémunération? Je voudrais la réponse de M. Martineau.
Bernard Martineau, qu'est-ce que vous dites à Joël?
Je peux pas me prononcer je peux pas me prononcer sur la rémunération de cette entreprise particulière, évidemment.
Il faut multiplier par le
nombre d'heures. Mais en revanche, ce que je peux dire de manière générale, et je rebondis sur ce que disait monsieur, il apparaît dans l'enquête qu'il y a trois motifs d'insatisfaction majeurs chez les salariés, donc qui sont minoritaires, mais qui sont quand même une forte minorité. C'est la reconnaissance au travail, le travail qui n'est pas assez reconnu, la rémunération, ça ne vous apprendra rien, et l'absence de perspective d'évolution professionnelle. Voilà, c'est les trois grands, quand on interroge un large panel, on tombe toujours, et depuis un certain nombre d'années, sur ces trois motifs d'insatisfaction. Ça ne veut pas dire qu'elle est majoritaire. À chaque fois, il y a une forte minorité sur ces trois sujets, il y a une forte minorité de personnes qui sont insatisfaites sur ces aspects-là.
C'est vrai que l'augmentation de salaire, c'est la déclaration d'amour dans le monde du travail.
C'est un peu le nerf de la guerre. Et les gens, on nous explique partout que les gens veulent du sens au travail, etc., ce qui est tout à fait vrai. Mais enfin, il y a un problème premier à traiter, c'est quand même la rémunération. Et ça, c'est un sujet qui ressort dans toutes les études. De ce point de vue-là, cette étude n'est pas particulièrement originale.
Bernard Martineau, économiste à l'Institut Montaigne. Voilà, cette étude, vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'Institut Montaigne. C'est très bien fait, c'est très bien résumé. Il y a les chiffres clés. On apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Et merci à Joël qui nous a appelé du Nord, entre Lille et Lens. Il est 12h47. On va parler sécurité routière et notamment de la mortalité sur les routes pour les vélos. Les chiffres ne sont pas bons, c'est dramatique. On en parle dans un instant, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h50, on va parler de la mortalité sur les routes. 3260 morts en 2022, dont 244 cyclistes. 57 cyclistes tués de plus par rapport à 2019, qui est la dernière année sans Covid. On en parle avec Teodoro Bartuccio, directeur sportif du Paris Cycliste Olympique, fondateur de l'association Mon Vélo est une vie. Bonjour Teodoro Bartuccio.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous lancez un appel au pouvoir public pour leur dire quoi?
Que tout simplement le vélo des champs doit avoir la même sécurité que le vélo des villes. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien par rapport aux chiffres qui viennent de sortir, que hors agglomération, tous les cyclistes sont beaucoup plus en danger que les cyclistes qui sont en ville.
Il y a de plus en plus de cyclistes tués sur les routes à la campagne, c'est ça, hein?
Tout à fait. Aujourd'hui, comme on peut le voir, il y a de plus en plus de cyclistes qui sont percutés et parfois, même très souvent, volontairement par des chauffards, des délinquants de la route. Et donc nous, tout simplement, on essaye de tirer la sonnette d'alarme auprès du gouvernement afin qu'ils se rendent compte qu'il faut développer non seulement la sécurité à travers des aménagements spécifiques sur les routes hors agglomération, mais aussi essayer de changer les lois pour condamner tous ces délinquants de la route.
Des chauffards percutent volontairement des cyclistes sur les routes à la campagne. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du chauffard, selon vous?
Après, c'est compliqué à dire, parce que c'est vrai que c'est insensé. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, avec notre commission juridique, on défend les victimes. On les accompagne juridiquement, administrativement, sur chaque procès. Et on se rend compte qu'à chaque fois, beaucoup de chauffards percutent volontairement les cyclistes en dehors des villes. Alors après, c'est vrai que quand on est en campagne, tout simplement, vous savez, il n'y a pas de témoin. Donc, c'est bien plus facile pour que quelqu'un renverse un cycliste parce qu'il n'y a pas de témoin, parce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. Et ensuite, il prend la fuite. Et c'est régulièrement que, c'est à peu près une fois par semaine qu'on a des témoignages de ce type.
Pourquoi ? Parce que quel est le message ? C'est tu m'embêtes sur la route, la route est plus à moi qu'à toi, tu n'as pas à être là, c'est ça ?
Je pense qu'il y a un problème de partage de la route. Et puis, aujourd'hui, il y a une frustration de la part de certains par rapport dans les villes où il y a beaucoup d'aménagements. Et tout simplement, ils ne supportent pas qu'on soit sur la chaussée et qu'on les dérange, tout simplement.
Oui.
Et vous savez, avant, Avant, moi, quand j'étais gamin, ça arrivait souvent qu'on se fasse klaxonner et puis l'automobiliste nous doublait et partait. Maintenant, aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il descend son carreau et si ça ne lui plaît pas ce qu'on va lui dire, bah, il met un coup de volant et il nous percute.
Oui, oui. Et puis, il y a le cyclisme et la sécurité routière à vélo en ville. Sabine, 65 ans, nous appelle de Paris. Bonjour Sabine.
Bonjour.
Bonjour.
Vous ravie dites... de pouvoir participer à votre émission. Bah... J'entendais le témoignage de mon prédécesseur. C'est incroyable que les gens percutent les vélos alors que dans Paris, on n'ose pas rouler parce que justement, on a peur qu'il leur arrive quelque chose.
Bah oui, oui. Parce que vous vous dites, dans la capitale, mais c'est vrai dans toutes les grandes villes, c'est plutôt l'inverse. C'est quand on est automobiliste que l'automobiliste n'a plus le pouvoir dans les grandes villes.
C'est pas une question de pouvoir, c'est que on craint de renverser soit une trottinette, soit un vélo, de les percuter. Qu'est-ce qu'il arriverait à la voiture, une griffe? Mais eux, c'est leur vie qui est en danger. Et
bien
je
sûr.
Trouve, et j'insiste tous les jours. Dans Paris et autour de Paris, des gens qui prennent des risques inconsidérés, des gens qui ont soi-disant des vélos plus rapides et qui sortent de la piste cyclable et qui se mettent sur les parties de la chaussée qu'on nous a énormément rétrécies en me disant « oui, mais moi je vais plus vite qu'eux, donc je reste là ». Et donc, vous êtes obligés d'attendre et de les suivre à leur vitesse. Bon, ok, mais enfin, je trouve ça vraiment stupide. Alors, à quoi ça sert ? Maintenant, il y a aussi certains endroits où j'ai remarqué que la signalisation n'était pas claire. Donc, les cyclistes ne voient pas qu'il y a une piste cyclable.
Oui.
Mais j'assiste aussi tous les jours à des trottinettes et des vélos qui sont sur la chaussée. Et il y en a un qui m'a dit, de toute façon, la chaussée et la route est à tout le monde. J'ai dit, mais pourquoi vous mettre en danger comme ça ? Pourquoi passer un rond-point en plein milieu du trafic de voitures alors que vous avez une piste cyclable qui fait le tour de la place ? Franchement, je ne comprends pas. Et surtout, quand j'ai appris à faire du vélo, on m'a dit, quand tu tournes à droite, tu mets ton bras, quand tu tournes à gauche, tu le signales. Vous êtes derrière un vélo, vous ne savez pas s'il va aller ou tout droit, ou à gauche, ou à droite.
C'est
vous êtes obligé d'attendre. C'est quand même pas compliqué de dire, je mets mon bras,
je vais à droite,
je
vais à gauche. Teodoro Bartuccio, c'est important ce que dit Sabine. Est-ce qu'en ville, les cyclistes ne peuvent pas faire un petit peu plus attention, notamment s'arrêter au feu rouge, par exemple ?
Oui, bah après je voudrais rebondir par rapport à ce que disait Sabine, elle a entièrement raison, et par rapport aux chiffres, sur l'année 2022, on a un seul mort sur la ville de Paris, donc ça prouve bien que c'est vrai qu'il y a des aménagements qui ont été mis en place pour les grandes villes. Après, nous, on travaille beaucoup sur le côté formation, c'est ce que disait Sabine tout à l'heure, vous savez, de mettre le bras, etc., avec la mesure gouvernementale qui est toujours facultative, alors que Elisabeth Borne, quand je l'avais rencontrée il y a quelques années, m'avait promis qu'elle serait obligatoire. Donc cette mesure gouvernementale, elle est faite tout simplement pour former les jeunes, pour former la future génération. Donc on se déplace dans les écoles et on leur enseigne tout simplement le partage de la route et à utiliser correctement son vélo. Donc vous savez, il y a un manque de formation non seulement auprès des cyclistes, parce que des mauvais élèves, il y en a partout, chez les automobilistes et les cyclistes.
Et des voitures et des automobilistes.
Et il y a aussi un manque de formation aussi auprès des automobilistes afin de partager correctement la route avec les cyclistes.
Merci beaucoup Teodoro Bartuccio, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Merci à Sabine de nous avoir appelé depuis Paris. Il est 12h56. Dans un instant, c'est la France Bouge avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Romain.
On parle de quoi ?
On va parler de la journée mondiale contre le cancer. C'est dans deux jours. 9 millions de personnes sont actuellement concernées en France. Alors où en sont les recherches ? Est-ce que nous avons les moyens ? Assez de moyens financiers ? On va avoir toutes les réponses avec Éric Solari. Il est oncologue, il est membre du conseil d'administration de la Fondation ARC, mais aussi des start-up évidemment dans la France Bouge. Romain, on vous retrouve demain à midi.
Pour un nouvel
Europe Midi.
Un nouvel Europe Midi, à demain.